À l'été 1988, une femme aisée de Jackson au Mississippi disparaît de chez elle en plein jour. Le seul indice qu'on retrouve est une mystérieuse demande de rançon. Le FBI et le service de police de Jackson devront trouver des réponses dans ce message codé pour retracer le ravisseur et sa victime avant qu'il ne soit trop tard. Le 26 juillet 1988, 6 heures du matin. Une autre journée torride s'annonçait pour la ville de Jackson au Mississippi, au sud des États-Unis. Comme tous les jours depuis 48 ans, Annie Laurie Aaron prit un café avec son mari Robert avant qu'il parte travailler. Les Aaron avaient été parmi les premiers à investir dans l'industrie du pétrole, ce qui en avait fait l'un des couples les plus riches du Mississippi avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Ce jour-là, Annie Laurie Aaron devait recevoir les membres de son club de bridge à la maison. Elle vivait là avec son mari depuis les tout débuts. Ils y avaient élevé leurs deux enfants. À 15h30, après la partie de bridge, les amis de Madame Aaron prirent congé. Après avoir terminé de tout ranger, sa domestique demanda une dernière fois à Madame Aaron si elle désirait quelque chose d'autre avant qu'elle ne parte. La dame de 73 ans lui dit que tout était très bien comme ça et la laissa partir. Annie Laurie Aaron se proposait de passer le reste de l'après-midi à lire en attendant le retour de son mari. Elle n'attendait personne, mais peut-être une de ses amies du club ou la domestique avait-elle oublié quelque chose. Son mari ne devait rentrer qu'une heure plus tard.
Hi, how are you, ma'am?
I'm fine, thank you. How are you?
Good. I got to see your husband. I have a letter.
Come back and see him.
No, I don't mind waiting at all. Let me just come on in here and wait for you.
Annie Laurie Aaron était seule dans la maison. Vers 16h30, Robert Aaron rentra enfin chez lui. Il constata que sa femme n'était pas là. Il se dit qu'elle était sans doute partie avec ses amis ou leur fille. Mais à 17h30, il trouva étrange qu'elle ne l'ait pas appelé ni laissé un mot. Il n'y avait personne à la maison. Inquiet, Robert appela les membres de la famille et des amis. Personne n'avait vu Annie Laurie depuis la partie de bridge. Le gendre de Robert, qui demeurait à proximité, s'empressa de venir le rejoindre. Il lui dit que sa femme et lui n'avaient eu aucune nouvelle d'Annie Laurie de toute la journée. Robert Aaron constata qu'Annie Laurie était sortie sans son sac à main, ce qui était contraire à ses habitudes. Pourquoi donc son sac à main était-il par terre avec ses chaussures à côté de son fauteuil de lecture? Son journal et ses lunettes étaient juste à côté. Robert était inquiet, d'autant plus que le médicament de sa femme atteinte d'une maladie intestinale était toujours dans la salle de bain. Elle devrait le prendre sans tarder, sans quoi elle serait incapable d'absorber les aliments. Les deux hommes fouillèrent la maison à la recherche d'un indice sur l'endroit où elle avait pu aller. Un bout de papier près de la porte d'entrée principale retint alors l'attention du gendre. Il s'agissait d'une demande de rançon. Annie Laurie Aaron avait été enlevée. Sur la lettre, on demandait à Robert Aaron de remettre de l'argent à 12 hommes différents au cours des 10 prochains jours, mais on ne mentionnait toutefois pas le montant d'argent à remettre, ni à quel endroit devait se faire le paiement. Comme on lui ordonnait de ne pas appeler la police, Aaron attendit l'appel du ravisseur, mais le téléphone resta silencieux. À la tombée de la nuit, malgré les menaces du ravisseur, il décida d'appeler le service de police de Jackson. Les policiers prirent toutes les précautions possibles avec la demande de rançon pour ne pas détruire les éventuelles empreintes digitales. Ils fouillèrent ensuite la maison à la recherche d'autres indices et découvrirent ce qui ressemblait à du sang sur le cadre de la porte d'entrée. Des analyses de laboratoire révéleraient par la suite qu'il s'agissait de sang du même groupe sanguin que celui de Mme Aaron. L'enlèvement est un crime qui doit être résolu rapidement, sinon les chances de retrouver la victime en vie sont minces. Ce soir-là, la police de Jackson entra en contact avec l'agent spécial Patrick McGlennon du bureau du FBI de Jackson afin d'obtenir le plus vite possible les ressources du gouvernement fédéral.
En vertu de la loi fédérale sur les enlèvements, tout kidnapping d'un individu aux États-Unis relève de la juridiction du FBI. Dans ce cas-ci, il s'agissait vraisemblablement d'un enlèvement, car il y avait une demande de rançon, et il était fort possible que son auteur quitte le Mississippi. Autant de raisons qui justifient la présence du FBI.
Le lendemain matin, à l'aube, les agents du FBI et des techniciens en cueillette d'indices arrivèrent à la résidence des Aaron. Le détective de Jackson transmit à l'agent chargé de l'affaire toutes les informations pertinentes dont il disposait sur ce cas. Le FBI mit en place un poste de commandement dans la maison et mit la ligne des Aaron sous écoute pour être prêt à retracer tout appel de demande de rançon. À l'évidence, Robert Aaron était la véritable cible du ravisseur de sa femme. Il n'avait toujours reçu aucun appel. Mais la lettre mentionnait toutefois que les 12 hommes étaient tous reliés à la même entreprise de photographie. Robert Aaron déclara qu'il avait déjà été président du conseil d'administration de cette entreprise. Certains des franchisés de cette société avaient été poursuivis dans l'espoir de récupérer des pertes, mais il ignorait lesquelles. Il était peu probable que les 12 hommes nommés aient enlevé sa femme, mais peut-être l'un d'entre eux cherchait-il à se venger en l'attaquant. Les techniciens recueillirent des échantillons de tous les bloc-notes et papiers à lettres dans la maison des Aaron. Ils avaient l'intention de les comparer avec la lettre afin de voir si elle avait été rédigée sur du papier provenant de la maison. On obtiendrait les résultats de ces analyses dans quelques jours. Les enquêteurs fouillèrent ensuite à l'extérieur de la maison, à la recherche de cheveux, de traces de sang ou de vêtements, bref, de tout indice sur l'identité du ravisseur. Mais leurs fouilles furent vaines. Les voisins du couple et les domestiques n'avaient rien aperçu d'anormal l'après-midi précédent et personne n'avait vu Mme Aaron quitter les lieux non plus. Le lendemain, les agents continuèrent à ratisser le quartier. Ils interrogèrent entre autres un médecin qui vivait au bout de la rue. Ce dernier avait vu quelque chose dans le quartier qui pouvait fort bien être relié à l'enlèvement. Deux semaines plus tôt, en allant faire quelques courses, il avait croisé une mini-fourgonnette blanche garée près de chez lui. De l'endroit où elle était stationnée, les passagers avaient une excellente vue de la maison des Aaron. Sur le coup, le médecin n'y avait guère porté attention, mais il avait été surpris de la voir au même endroit à son retour quelques heures plus tard. Il se dit que le conducteur avait peut-être eu un malaise et il alla lui offrir de l'aide. Le conducteur lui demanda alors si une loi lui interdisait de se garer dans le quartier. Le médecin avait trouvé la réaction du conducteur si bizarre qu'il n'avait pas pu oublier l'incident. Il ajouta que le véhicule était parti quelques minutes plus tard. Les enquêteurs poursuivirent leur recherche dans le quartier et trouvèrent une femme qui avait aperçu la mini-fourgonnette blanche garée dans la rue 3 mois plus tôt.
Une autre voisine avait également vu une mini-fourgonnette dont la description correspondait à celle du premier témoin. Elle était garée presque devant la propriété des Heron au cours des premiers jours d'avril 1988. Elle avait trouvé la situation assez louche pour en noter le numéro de plaque d'immatriculation.
Si les enquêteurs parvenaient à trouver le propriétaire du véhicule, ils trouveraient peut-être Mme Aaron. Malheureusement, une vérification du numéro de la plaque leur révéla qu'elle provenait d'un véhicule volé à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. C'était une autre impasse. Après 36 heures d'enquête et aucun appel du ravisseur, les agents espéraient maintenant obtenir une piste fraîche du laboratoire qui avait analysé la lettre. Les experts du FBI commencèrent par établir que le papier du mot rédigé à la machine ne provenait pas de la maison des Aaron. Ils comparèrent ensuite les caractères à ceux de toute machine à écrire fabriquée au cours du siècle.
Ce service du laboratoire a pu déterminer que la lettre de rançon avait été dactylographiée à l'aide d'une machine à écrire de marque Royal, fabriquée entre 1912 et 1927. Malheureusement, les techniciens ont été incapables de déterminer le fabricant de ce papier et n'ont trouvé aucun autre indice.
Il n'y avait pas d'empreinte digitale. L'examen de la lettre permit seulement de trouver ce qui semblait être une tache de sang, mais elle était trop petite pour être analysée. Même si l'examen matériel de la lettre n'avait rien donné, peut-être que son contenu pourrait générer une piste. On y demandait à Robert Aaron de payer les 12 hommes de l'entreprise de photographie. Le ravisseur pouvait-il être l'un d'eux? Les agents apprirent alors que l'entreprise avait saisi les biens de chacun de ces 12 hommes, tous d'anciens franchisés qui lui devaient beaucoup d'argent. L'un des dirigeants de l'entreprise fournit au FBI les dossiers et photos de ces hommes. L'un d'eux était mort depuis. Les autres vivaient un peu partout au pays. Au bureau du FBI de Jackson, les agents se partagèrent les dossiers et les photos pour les examiner un à un. Ils envoyèrent des demandes d'informations au bureau du FBI des villes où vivaient ces hommes. Les agents s'aperçurent bientôt que nombre d'entre eux éprouvaient de grosses difficultés financières. Ils tentèrent de déterminer si l'un d'eux ne s'était pas trouvé dans le quartier des Aaron au moment où on avait aperçu la mini-fourgonnette blanche et lors de l'enlèvement. On se mit également à garder à l'œil les anciens franchisés. Peut-être l'un d'eux mènerait-il les agents à la victime de 73 ans. L'enquête en était maintenant à sa troisième journée. Il ne restait plus que 7 jours selon la lettre de rançon. De plus, on n'avait toujours pas reçu d'instructions précises de la part du ravisseur pour retrouver Annie Laurie Aaron en vie. Trois jours s'étaient écoulés depuis l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron, une grand-mère de 73 ans, dans sa maison de Jackson au Mississippi en plein jour. Le FBI continua à surveiller les hommes mentionnés dans la demande de rançon trouvée dans la maison des Aaron. Les agents ne pouvaient pas les interroger au risque que le ravisseur, se sentant coincé, ne s'en prenne à sa victime. L'agent spécial Patrick McGlennon espérait que l'un d'eux pourrait les conduire à la femme disparue.
Nous avons cherché à savoir s'ils faisaient des trajets, même courts, à partir de leur maison ou de leur bureau. Peut-être gardaient-ils Mme Aaron dans un endroit isolé où ils devaient aller lui porter de la nourriture, de l'eau ou quelque chose d'autre. Peut-être ne voulaient-ils pas être trop éloignés d'elle.
Malgré les efforts de plusieurs dizaines d'agents à travers les États-Unis, on ne trouva aucun indice sur l'endroit où se trouvait Annie Laurie Aaron. Les agents ne pouvaient se résoudre à contacter directement les 11 hommes. Ils préféraient agir secrètement. De plus, il fallait envisager que le ravisseur fût quelqu'un d'autre que les hommes mentionnés dans la lettre. Des agents entrèrent en contact avec le service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. On y forme spécialement des psychologues pour dresser le profil comportemental de criminels. L'un de ces experts examina tout particulièrement la lettre de rançon à la recherche des traits caractéristiques du ravisseur. Il communiqua les résultats de son analyse aux agents de Jackson qui travaillaient sur l'affaire Aaron. Lors de l'appel conférence, le psychologue déclara que le ravisseur était, selon lui, sans doute l'un des 11 hommes sous surveillance. Comme tous ces hommes étaient au moins diplômés de collège, il soupçonnait celui qui l'avait rédigé d'avoir intentionnellement fait des fautes d'orthographe et utilisé une vieille machine à écrire pour lancer les enquêteurs sur une fausse piste. Toujours selon l'expert, cet enlèvement n'était rien d'autre qu'un acte de vengeance contre Robert Aaron par un paranoïaque qui était sûrement prêt à tuer.
Le personnel du service des sciences comportementales croyait qu'un seul de ces hommes était impliqué et que c'était sans doute un individu dans la quarantaine de race blanche qui travaillait seul. Et s'il ne travaillait pas seul, l'autre personne était son subalterne.
Le psychologue conclut son analyse en déclarant qu'à 7 heures, il n'y avait pas plus de 50% de chance qu'Annie Laurie Aaron soit encore en vie. Un autre détail avait retenu son attention, une expression qui s'intégrait mal au reste de la lettre et qui pouvait donner une indication de la profession qu'exerçait le ravisseur.
Dans la lettre, on pouvait lire « Versez-leur tous les dommages-intérêts qui leur sont dus, et si l'un d'eux est mort, payez leurs héritiers ». L'expression « dommages-intérêts » est un terme légal. C'était d'autant plus intriguant que l'un des hommes mentionnés dans la lettre était un avocat.
On demanda à l'agent spécial Tom Montgomery, du bureau de Jacksonville en Floride, de faire enquête sur l'avocat dont le nom figurait dans la lettre. Cet homme s'appelait N. Alfred Wynne.
Quand on a obtenu le nom de N. Alfred Wynne, nous avons examiné les documents publics le concernant. Nous avons également appelé le service de police de St. Petersburg, le bureau du shérif de Pinellas, et découvert qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire. Nous avons fouillé dans notre base de données informatisée et avons établi qu'il était avocat à Saint Petersburg et qu'il vivait au-dessus de son cabinet.
Un agent se rendit pour interroger Alfred Wynne. Celui-ci déclara qu'il n'était pas impliqué dans l'enlèvement. Il lui dit ensuite où il se trouvait le 26 juillet, soit le jour de la disparition de Madame Aaron. Il était dans un bar en compagnie d'une prostituée. Il ajouta qu'au cours de la soirée, il avait appelé son secrétaire au bureau. Il lui avait demandé de le rencontrer au bar et lui prêter une centaine de dollars pour qu'il puisse payer la prostituée qu'il comptait ramener avec lui à la maison. L'employé lui avait promis d'aller le rejoindre sur le champ. Wynne ajouta que la prostituée et lui étaient sortis pour passer le temps. Ils attendirent l'arrivée du secrétaire avec l'argent. Wynne se trouvait dans sa voiture avec la prostituée lorsque l'employé finit par arriver. Wynne prit l'argent et partit avec la femme. Il ne se rappelait pas grand-chose du reste de la soirée. Il ne se souvenait plus ni du nom du bar, ni du nom de la prostituée. Le lendemain, les agents vérifièrent son alibi lors d'une rencontre avec son employé pendant que l'avocat était absent du bureau. Ce dernier corrobora les déclarations de son patron et ajouta qu'il ignorait lui aussi le nom du bar puisqu'il n'y était jamais allé auparavant. Les agents soupçonnaient les deux hommes de mentir.
Nous avons appris que Wynne avait financé les cours de son auxiliaire au collège, ainsi que les études relatives au métier de secrétaire juridique. On avait appris que ce dernier touchait le salaire minimum et qu'il était extrêmement loyal envers Wynne.
Plus tard, les agents interrogèrent l'auxiliaire de Wynne de nouveau et lui firent part de leurs soupçons. Ce dernier soutint qu'il avait bien rencontré Wynne au bar le jour de l'enlèvement, mais il ajouta quelque chose de nouveau sur son patron. Il déclara que les poursuites judiciaires entre Wynne et la société de photographie avait débuté quand l'entreprise avait saisi les biens de son patron 7 ans plus tôt et qu'il avait contesté les poursuites pour se venger. Pour s'éviter de payer ses dettes, il avait même tenté de faire banqueroute à 3 reprises. Par un ordre de la cour visant à récupérer l'argent, le marshal avait confisqué plusieurs objets de valeur de Wynne, notamment 1000 actions très bien cotées en bourse. On avait également confisqué sa voiture européenne, un coupé sport que Wynne adorait. De plus, on avait mis son cabinet aux enchères. Le 6 juillet 1988, soit moins de 3 semaines avant la disparition de Madame Aaron, Wynne avait reçu un avis d'éviction. Mais il avait refusé de partir. Selon son auxiliaire, Wynne était furieux. Il était persuadé que la société de photographie avait causé sa ruine. Les agents du FBI se demandaient si l'auxiliaire pouvait être impliqué dans l'enlèvement.
Nous avons fait sortir les dossiers de tous les véhicules enregistrés au nom de l'auxiliaire, des amis et des associés de Wynne, incluant celle de Wynne lui-même. Nous avons alors appris qu'une mini-fourgonnette blanche était au nom de l'auxiliaire juridique. Au cours d'un interrogatoire de cet employé, il nous a dit que Wynne utilisait souvent ce véhicule.
Cette découverte était très prometteuse. Par le bureau d'immatriculation des véhicules, on obtint le nom de la propriétaire précédente. Un agent se rendit chez elle pour l'interroger. Elle dit qu'Alfred Wynne, et non l'auxiliaire juridique, était venu lui acheter le véhicule. Elle avait trouvé son comportement bizarre, car il avait insisté pour que son nom ne figure pas sur le document. La femme avait donc laissé en blanc la case du nom de l'acheteur. La piste était encourageante. Les agents apprirent toutefois que la mini-fourgonnette se trouvait dans un atelier de mécanique le jour de l'enlèvement. C'était une frustration de plus pour les agents aux prises avec une enquête complexe. Après plus d'une semaine, le FBI et le procureur James Tucker n'avaient guère progressé pour retrouver Annie Laurie Aaron.
Une affaire comme celle-là, c'est très difficile parce qu'on ne dispose d'aucun témoin visuel. Personne n'avait assisté à l'enlèvement. Personne ne pouvait donc nous dire que Newton Alfred Wynne, ni aucune des personnes dont les noms figuraient sur la lettre, avait même déjà rencontré Mme Aaron.
Au service de police de Jackson, au Mississippi, les enquêteurs rencontrèrent de nouveau le médecin qui avait aperçu la mini-fourgonnette blanche dans le quartier des Aaron. Il fallait espérer qu'il reconnaîtrait le visage de Wynne à partir d'une photo. Le médecin l'identifia immédiatement. Il était persuadé de l'avoir vu étudier un plan dans une mini-fourgonnette blanche garée devant sa maison à la mi-juillet, soit moins de 2 semaines avant l'enlèvement de Mme Aaron. L'autre voisine, qui avait vu un véhicule identique dans le quartier, identifia également Wynne comme étant le conducteur. L'implication d'Alfred Wynne dans l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron ne faisait plus de doute pour les enquêteurs, même s'ils en ignoraient toujours les détails.
Parce qu'il avait bel et bien été identifié, Wynne avait donc joué un rôle dans l'enlèvement, s'il n'en était pas le seul auteur. Et si ce n'était pas lui qui était venu sonner à la porte de Mme Aaron et l'avait emmené de force, il était certainement celui qui avait orchestré toute l'affaire.
Les agents gardèrent Wynne sous surveillance. Peut-être les conduirait-il à la femme disparue. Mais le délai stipulé dans la lettre de la rançon touchait à sa fin et les chances de retrouver la frêle Mme Aaron saine et sauve étaient de plus en plus minces. Le lendemain du délai mentionné dans la lettre de rançon, les agents du FBI et les détectives de Jackson donnèrent des conseils au mari de la femme disparue, Annie Laurie Aaron, en vue d'une apparition à la télévision où il devait demander à son ravisseur de lui rendre sa femme. Dans la lettre, il n'y avait aucune instruction claire sur la façon d'obtenir la libération de Mme Aaron. Les psychologues espéraient que la conférence de presse encouragerait le ravisseur à entrer en contact avec Robert Aaron et à lui dire comment procéder pour revoir sa femme saine et sauve. Sa fille et son fils à ses côtés, Aaron demanda à toute personne disposant d'informations sur l'enlèvement de se manifester. Il s'adressa aussi directement au ravisseur et lui promit de suivre ses instructions à la lettre. Une semaine plus tard, le plan semble avoir porté fruit. Le 15 août 1988, Robert Aaron reconnut l'écriture de sa femme sur une enveloppe dans son courrier. L'enveloppe, qui avait été oblitérée par la poste le 12 août, provenait d'Atlanta, en Géorgie. Les enquêteurs prirent toutes les précautions nécessaires pour ne détruire aucun indice. Robert Aaron croyait qu'il s'agissait de l'écriture de sa femme. Les experts du FBI le confirmèrent. Dans la lettre, Annie Laurie suppliait son mari de répondre aux demandes de ses ravisseurs, sinon, y écrivait-elle, il l'enfermerait dans une cave avec seulement quelques cruches d'eau. Bien que la lettre ne contienne pas d'instructions précises, pour l'agent Patrick McGlennon, elle était encourageante puisqu'elle permettait d'espérer que Madame Aaron était encore en vie.
Quand nous avons reçu cette lettre le 15 août, écrite de la main de Madame Aaron, le moral des personnes travaillant sur l'enquête a remonté. Nous étions pratiquement sûrs, compte tenu du fait qu'elle avait rédigé cette lettre, qu'elle tenait encore le coup. Nous étions déterminés à ne pas la laisser tomber.
La lettre elle-même était datée du 10 août, soit 15 jours après l'enlèvement. Mais personne ne pouvait être absolument certain que Madame Aaron était encore en vie à cette date. De plus, il était impossible de savoir si le contenu intégral de la lettre ne lui avait pas été dicté, comme nous l'explique l'agent Tom Montgomery.
Certains mots de la lettre, comme « m'enfermer dans la cave avec quelques cruches d'eau » alors qu'elle s'adressait à des membres de sa famille, n'étaient pas les mots qu'elle aurait normalement utilisés. Elle aurait vraisemblablement écrit les mots « sous-sol » et « bouteille d'eau ». Nous avions donc l'impression qu'on lui avait dicté cette lettre.
Si tel était le cas, le message et la date pouvaient être faux. Aaron, qui ne savait trop que faire, décida de faire des chèques à tous les hommes mentionnés dans la première lettre. Voici le procureur James Tucker.
Il avait déjà demandé à son équipe de déterminer quels avaient été à l'époque et pour chacune des personnes de la liste les montants saisis par l'entreprise. Il avait donc une bonne idée des montants en cause.
Monsieur Aaron remit donc aux hommes des sommes équivalentes à ce qu'ils avaient été obligés de payer lors des poursuites. Le montant total s'élevait à près $1 million. Aaron envoya notamment à Wynne, le suspect principal, la somme de $145 000. À chacun de ses chèques, il ajouta une lettre demandant le retour de sa femme, saine et sauve. Le FBI demanda au service des postes de livrer les enveloppes dès le lendemain. Un peu plus tard, des agents eurent un entretien avec l'auxiliaire juridique de Wynne qui leur raconta comment l'avocat avait réagi en recevant le chèque de Robert Aaron.
Quand Wynne a reçu son enveloppe à Tampa, en Floride, il l'a ouverte, il a lu le contenu de la lettre et s'est tourné vers son employé en disant « Ce n'est pas ce que je voulais ».
Il déclara à l'auxiliaire qu'il souhaitait retrouver sa vie d'avant, ravoir sa voiture confisquée, ses bijoux et tous ses autres biens. Wynne retourna le chèque avec un mot où il disait souhaiter que Madame Aaron puisse rentrer chez elle. Les agents croyaient maintenant qu'Alfred Wynne avait bien enlevé la femme, non pas pour toucher l'argent, mais bien pour se venger de Aaron, qui avait présidé le conseil d'administration de l'entreprise de photographie. Cela signifiait qu'il était peu probable que Madame Aaron rentre chez elle un jour. Quelques-uns des hommes gardèrent l'argent reçu, mais la plupart d'entre eux retournèrent le chèque en y ajoutant un mot.
Certaines personnes à qui M. Aaron a envoyé ses chèques les lui ont retournés immédiatement et lui ont écrit ou l'ont appelé pour exprimer leurs regrets à la suite de ces événements tragiques. Il ne voulait pas toucher cet argent et refusait de tirer profit d'une telle situation.
2 mois et demi s'écoulèrent sans nouvelles du ravisseur Danny Laurie Aaron. Étant donné son état de santé précaire, ses chances de survie après autant de temps étaient minces. Au début du mois de novembre 1988, l'affaire fit l'objet d'une émission policière. Après la diffusion, des agents de partout au pays durent donner suite à des centaines d'indications fournies par les téléspectateurs. L'appel d'une femme de Floride semblait particulièrement prometteur. Même si on avait bien pris soin de ne diffuser aucun des noms qui figuraient sur la demande de rançon, cette femme leur dit que si Alfred Wynne était sur la liste, elle avait d'importantes informations à leur transmettre. Les agents du FBI apprirent que cette femme de Floride était une voyante, ce qui ne leur inspirait guère confiance. Mais après quelques questions, ils apprirent qu'elle était respectée des autorités policières pour avoir souvent collaboré avec la justice. La voyante déclara qu'elle avait rencontré N. Alfred Wynne 4 ans plus tôt. Il était venu la consulter en 1984 pour des problèmes qu'il avait avec l'un des dirigeants d'une entreprise de photographie, l'entreprise même dont parlait la lettre de rançon.
Elle lui a alors conseillé de régler ses problèmes par le biais du système judiciaire. Il lui a répondu qu'il l'avait déjà fait, mais que ça n'avait rien donné.
Wynne lui dit qu'il voulait kidnapper le grand patron de l'entreprise et le garder en otage jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désirait. Il disposait déjà de l'endroit idéal pour le garder en otage et il ne lui restait plus qu'à trouver quelqu'un pour l'aider. Il la rappela un mois plus tard pour lui demander son aide. Elle refusa. La voyante remit au FBI son dossier sur Wynne. Une fois qu'elle eut l'assurance qu'elle bénéficierait de la protection de la police, elle accepta de collaborer avec les autorités et promit de contacter Wynne pour organiser une rencontre avec lui. Des techniciens posèrent des micros et une caméra dans son bureau.
Notre plan consistait à provoquer une rencontre entre Wynne et elle, au cours de laquelle ils poursuivraient leur discussion sur l'enlèvement de M. Aaron, de même que sur différents autres points qui pourraient corroborer ce qu'ils avaient déjà abordé ensemble au cours de discussions antérieures.
Alfred Wynne mordit à l'hameçon. La rencontre eut lieu au début de décembre 1988. Les agents du FBI virent Wynne arriver au bureau. Finirait-il par révéler où il avait séquestré la femme d'Aaron? Les agents l'espéraient. Après avoir dit à Wynne qu'elle avait vu une émission à la télévision sur l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron, la voyante lui demanda s'il avait joué un rôle dans ce crime. Wynne le nia en ajoutant qu'il avait pris la décision de ne pas enlever Robert Aaron ainsi qu'ils en avaient déjà discuté. Même si l'enregistrement corroborait maintenant la déposition de la voyante, il ne fournissait pas les preuves suffisantes pour arrêter Alfred Wynne. Lorsque celui-ci quitta le bureau, les agents le prirent en filature.
Nous avions espéré que la rencontre de Wynne et de cette voyante aurait comme effet à tout le moins de l'amener à faire une vérification de l'endroit où il avait abandonné le corps de Madame Heron ou nous conduirait à un complice.
Mais le suspect n'effectua jamais quelques visites d'un lieu où il aurait pu dissimuler le corps. Quelques semaines plus tard, les agents apprirent toutefois que Wynne possédait un chalet dans une région marécageuse en Floride, l'endroit rêvé pour un ravisseur. Les agents espéraient y trouver Annie Laurie Aaron, morte ou vive. Le chalet pouvait toutefois avoir été piégé et un complice armé pouvait les y attendre à l'intérieur. Six mois après l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron, âgée de 73 ans au Mississippi, les agents espéraient la trouver dans un chalet isolé en Floride dont le propriétaire était le suspect numéro 1, Alfred Wynne. D'après une lettre écrite de la main d'Annie Laurie, le ravisseur avait menacé de l'enfermer vivante dans une cave. Mais les agents ne trouvèrent aucun sous-sol. L'endroit ne contenait pas le moindre indice relié à l'enlèvement. Annie Laurie Aaron était toujours portée disparue et présumée morte. Puis, à la fin de juillet 1989, Alfred Wynne fit parvenir un classeur au ministère du Revenu, les mettant au défi de trouver les documents financiers qu'on lui avait demandés. « mais à cause de son arrogance, il oublia d'éliminer un indice important, signant ainsi sa condamnation.
Selon nous, Wynne a envoyé ces quelques 1000 documents aux agents du ministère du Revenu pour les intimider et les forcer à le laisser tranquille. On s'est aperçu qu'il adoptait cette attitude dans de nombreuses situations. C'est avec arrogance qu'il tentait toujours de dominer quiconque entrait en relation avec lui.
Quand les agents du ministère tombèrent sur des lettres concernant un enlèvement et un complot de meurtre, ils appelèrent le FBI. Ces documents décrivaient comment Wynne et une de ses ex-petites amies avaient planifié d'enlever et de tuer le mari de celle-ci. De l'avis de l'agent spécial du FBI, Tom Montgomery, les ressemblances entre cette description et l'enlèvement de Mme Aaron étaient frappantes.
Ils y mentionnaient leur intention d'utiliser une vieille machine à écrire pour rédiger une lettre. Or, la lettre de rançon suite à l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron avait été écrite avec une machine à écrire des années 20. Ils faisaient également référence à des plans géographiques détaillés d'opérations de surveillance du secteur. Ils ajoutaient que Wynne allait commettre ce crime et que la femme ne devait que l'aider à obtenir ce qu'il voulait.
Les agents du FBI retracèrent l'ex-petite amie de Wynne au collège où elle travaillait. Ils avaient l'intention de l'interroger à propos du complot dont faisait état les lettres. Elle commença par déclarer ne rien savoir d'un tel complot. Mais quand les agents lui rappelèrent qu'elle commettait un crime en empêchant l'enquête de suivre son cours, elle se ravisa. Elle déclara que le complot pour tuer son mari était l'idée de Wynne. D'ailleurs, quand elle avait réalisé que celui-ci était sérieux, elle avait rompu. Les agents lui demandèrent ensuite s'il avait été en contact avec lui depuis. Un an plus tôt, déclara-t-elle, soit au début du mois d'août 1988, Wynne lui avait demandé de la rencontrer dans un motel de Dillon, en Floride. C'était seulement quelques jours après l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron. Wynne avait un comportement méfiant, presque paranoïaque. Il lui montra une note écrite où il lui demandait s'il y avait des micros dans sa voiture et si quelqu'un l'avait suivi. Une fois qu'il fut convaincu qu'il ne courait aucun danger, il se mit à parler. D'abord, il lui demanda de poster une lettre pour lui en échange de $500 et du remboursement de ses dépenses. Après qu'elle eut accepté, il lui remit une avance de $250. Il lui remit ensuite une enveloppe dissimulée dans une serviette de table grise, puis il lui donna des instructions très précises. Elle ne devait ni toucher à l'enveloppe, ni même regarder l'adresse. Wynne lui dit ensuite d'acheter un billet d'avion sous un faux nom, de poster cette lettre d'Atlanta et de revenir par un autre aéroport que celui qu'elle avait utilisé à l'aller. Il ajouta qu'elle devait modifier son apparence avant de partir. Une fois à Atlanta, elle devait poster cette lettre le 11 août, mais selon la femme, il était tard ce jour-là quand elle trouva enfin une boîte aux lettres. À la dernière minute, elle ne put résister à l'envie de jeter un coup d'œil à l'adresse. La poste apposa son sceau le 12 août sur la lettre présumément envoyée par Annie Laurie Aaron. Les agents montrèrent alors à la femme la photo de la lettre reçue par Robert Aaron. Elle reconnut sans hésitation l'écriture de la femme. C'était bien, selon elle, l'enveloppe qu'elle avait déposée à la poste. Avec un aussi solide témoin à la disposition des enquêteurs, l'arrestation de Wynne n'était plus un objectif impossible. À la demande du FBI, l'ex-petite amie de Wynne accepta de porter un micro sur elle et de le rencontrer.
Nous espérions que Wynne discuterait des détails du crime, qu'il lui expliquerait quel rôle elle avait joué pour lui en postant la lettre destinée à Aaron, qui la remercierait pour son aide et lui réglerait ce qu'il lui devait encore.
La femme appela Wynne pour organiser une rencontre. Les agents lui avaient demandé de mentionner à Wynne le voyage à Atlanta. Comme on l'espérait, Wynn remit les $250 qu'il devait toujours à son ex-petit ami pour avoir posté l'enveloppe. Les agents furent témoins de toutes les vaines tentatives de leur informatrice à forcer Wynn à parler de l'enlèvement d'Annie Laurie Aaron. Mais le suspect se mit sur la défensive et sortit de l'auto sans avoir reconnu son implication dans ce crime. C'était maintenant le moment ou jamais de passer à l'action. Pour arrêter quelqu'un sans courir de danger, l'élément de surprise est primordial. Alfred Wynn fut accusé de complot pour meurtre, d'avoir envoyé une lettre de menace, de s'être parjuré lors d'un témoignage devant un grand jury au cours duquel il avait déclaré ne pas être impliqué dans l'enlèvement. Malheureusement, les agents ne disposaient toujours pas de preuves solides que lui ou l'un de ses complices avait enlevé Annie Laurie Aaron. Dans la voiture de Wynn, on découvrit de nombreux plans géographiques du Mississippi, dont un sur lequel était indiquée la sortie de Jackson et qui comportait des indications routières notées à la main. Peut-être s'agissait-il de l'endroit où le corps de Mme Aaron avait été abandonné. Malgré des recherches exhaustives, on ne trouva rien. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents du FBI fouillèrent le bureau de Wynn. Ils avaient encore besoin de preuves matérielles. Les agents eurent un regain d'espoir en trouvant une vieille machine à écrire. L'agent spécial McGlennon avait encore en mémoire les résultats d'analyse de la lettre selon lesquels celle-ci avait été rédigée à l'aide d'une machine à écrire royale des années 20. C'était le modèle exact de la machine trouvée dans le bureau de Wynn.
Pour nous, c'était un gros coup de chance. J'ai tout de suite pensé que c'était la machine à écrire que Wynn avait utilisée pour rédiger la première lettre laissée dans la maison des Heron. Nous l'avons envoyée au laboratoire, déjà persuadés qu'on nous répondrait que c'était la machine qu'on avait utilisée pour taper cette lettre.
Au laboratoire du FBI, on constata toutefois que la machine trouvée dans le bureau de Wynn n'était pas celle qui avait servi à taper la lettre de rançon. Les agents en déduisirent que Wynn l'avait sans doute mise là pour semer le doute dans l'esprit des jurés advenant sa mise en accusation. Lors de la perquisition, on avait également trouvé la carte de visite d'une entreprise de location de véhicules. Lors d'un interrogatoire, le propriétaire de l'entreprise déclara qu'Alfred Wynn avait loué une mini-fourgonnette blanche à 3 reprises. Chaque fois, il avait parcouru plus de 800 km, soit seulement 160 km de plus que l'aller-retour pour se rendre chez les Aaron. Les dates de location du véhicule ne coïncidaient pas avec la date de l'enlèvement, mais l'une d'elles correspondait toutefois avec celle où des voisins des Aaron avaient aperçu Alfred Wynn dans leur quartier. Le procureur James Tucker disposait de peu de preuves. Il croyait que Wynn et son auxiliaire juridique avaient menti en déclarant que le suspect se trouvait avec une prostituée le jour de l'enlèvement.
Nous sommes retournés voir l'auxiliaire pour lui parler à nouveau de cet alibi. Les agents ont mis les cartes sur table avec lui. Il a fini par dire qu'il avait menti et que Wynn avait bien été absent du bureau au moment de l'enlèvement, c'est-à-dire entre le 24 et le 28 juillet.
Ces aveux prouveraient que Wynn s'était parjuré, mais ils ne permettraient pas de le faire accuser. Les agents ne mettaient plus du tout en doute sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre d'Annie Laurie Aaron. Le procès fédéral pour le complot visant un enlèvement s'ouvrit au Mississippi le 29 janvier 1990.
Au cours de toute l'enquête et du procès de 2 semaines tenu à Hattiesburg au Mississippi, Wynn a maintenu qu'il était innocent. Mais le jury l'a trouvé coupable des crimes dont il était accusé.
N. Alfred Wynn a écopé de la peine maximale pour ses crimes, soit de 19 ans et 7 mois d'emprisonnement pour complot en vue de commettre un enlèvement. Il n'aura jamais la possibilité d'être remis en liberté conditionnelle de sa prison fédérale de Coleman en Floride.
Encore à ce jour, nous n'avons jamais pu découvrir où Mme Aaron se trouve. La famille mériterait pourtant de le savoir. Dans notre bureau, nous considérons toujours cette affaire comme non résolue, et nous continuerons de la considérer ainsi tant qu'on ne nous aura pas dit où se trouve le corps de Mme Aaron. La famille le mérite.
Monsieur Aaron est mort des suites d'une attaque cardiaque le 28 novembre 1990. En mai 1991, le décès d'Annie Laurie Aaron a été décrété afin que la succession de Monsieur Aaron et de sa femme puisse être réglée. Les enfants d'Annie Laurie Aaron espèrent toujours découvrir un jour ce qui est arrivé à leur mère pour pouvoir faire leur deuil et la voir enfin reposer en paix.